métaphysique par le père Philippe à Saint-Jodard, le 12 janvier 1988.
Nous avons jusqu'ici essayé de comprendre le noyau fondamental de ce qui est, découvrir l'ousia, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, la substance. Il faut du reste bien reconnaître que dans la philosophie grecque, avant le mot ousia, c'était phusis. Donc c'est le passage de la phusis à l'ousia, au point de vue historique. Et c'est important de bien comprendre la différence entre les deux. Le point de vue phusis, c'est la considération à partir du monde physique, le monde qui est en mouvement, qui est mu. L'ousia apparaît à partir de la recherche de l'être. Oui, avec Parménide. Parménide a découvert l'être avant de découvrir l'ousia. Cherchez dans Parménide, vous n'avez pas l'ousia. Et l'ousia apparaît avec Platon. Je ne crois pas que ousia apparaisse avant. Donc ousia sera contemporain de ce que Platon considère comme ce qui demeure. La déesse qui demeure, c'est ça l'ousia. Et dans la perspective de Platon, la déesse qui demeure, c'est la forme en soi. Nous participons aux formes en soi. Il y a quelque chose en nous d'éternel qui est la forme en soi, par lequel on est au-delà de la corruption. Parce qu'au fond, la corruption, on la touche. On s'aperçoit bien qu'un jour, ça dégringole et qu'il ne reste plus grand-chose. Qu'est-ce qui reste? Il reste la forme en soi, que je n'ai jamais vue, vous non plus. Tandis que vous avez vu la corruptibilité, vous la constatez. Alors c'est très intéressant de voir comment, puisque historiquement, c'est sûr, c'est le conditionnement de notre pensée, c'est pas ça qui va nous faire comprendre ce qu'est l'ousia, mais c'est intéressant de voir comment, de fait, l'ousia a pénétré dans la philosophie, dans la recherche philosophique, par le point de vue de ce qui demeure, ce qui est au-delà de la corruptibilité. Alors n'oubliez pas que dans la perspective grecque, ce qui est au-delà de la corruptibilité, c'est le divin. Le divin, c'est l'au-delà de la corruptibilité. Tout ce qui est corruptible n'est pas divin. Et donc, il y a quelque chose de divin pour la perspective grecque dans l'ousia. Les formes en soi sont du domaine divin et au-delà de tout ce que nous constatons. Tout cela est vu dans une perspective religieuse, hein, faut pas l'oublier. La philosophie et la métaphysique sont nées à l'intérieur de traditions religieuses. C'est toujours très important de se rappeler ça. Parce que nous, au moins pour notre Occident, je ne parle pas de l'Orient, pour notre Occident, nous sommes en dehors des traditions religieuses. Les traditions religieuses n'ont plus beaucoup d'impact dans la culture. Et c'est pour ça que certains se posent la question, pouvons-nous encore maintenir un regard philosophique et métaphysique dans un monde complètement laïcisé et qui se matérialise? C'est un fait. Et c'est important de se le poser, parce qu'on n'a pas le droit de faire de l'archéologie, vous comprenez. C'est pas ça la philosophie, c'est pas faire de l'archéologie. C'est intéressant de voir au point de vue historique comment les problèmes se sont posés, d'essayer de comprendre l'origine de ces choses-là. Mais c'est pour nous. Qu'est-ce que c'est que pour nous la recherche de ce qui est? Est-ce que c'est légitime après Hegel? Parce que nous sommes dans une culture philosophique hegélienne, pas en Orient, mais pour nous en Occident. Et comme l'Occident a toujours la prétention d'être plus intelligent que l'Orient, vous savez bien, ça fait partie des prétentions du progrès, parce que la science est plus occidentale qu'orientale. L'Orient a sa science à elle, surtout du côté médical. Mais l'Occident a la prétention de la science, ça c'est sûr. Et à ce point de vue-là, elle a la prétention d'imposer sa vue. Et au niveau économique, c'est ce qui est en train de se faire. Au point de vue économique, au fond, il n'y a plus qu'une seule économie. Et elle provient de l'Occident. Et c'est peut-être cette économie qui fera le suicide de l'humanité. C'est très possible, sans être prophète de malheur. C'est tout simplement en regardant les choses. Parce que l'économie telle qu'elle est conçue actuellement est en train de tuer l'homme. À la place d'être au service de l'homme, elle tue la famille d'abord, puis elle tue progressivement l'homme. C'est bien que c'est très difficile, hein, parce que se mettre en dehors de l'économie, hein, c'est pas commode. Mais c'est très très curieux, cette économie dépend de la technique, elle dépend de la science. Et elle est le fruit erné, petite fille de la science, du progrès de la science. Ça, c'est très très net. Ce n'est plus du tout une économie artisanale, artistique. Elle est scientifique. Il faut sentir ces choses-là pour essayer de comprendre comment, dans notre monde d'aujourd'hui, puisque nous faisons la philosophie dans notre monde d'aujourd'hui, nous devons essayer de voir ce qu'est l'homme. Vous voyez, dans un monde de culture religieuse, on a moins besoin d'insister sur ce que c'est que l'homme, puisqu'on insiste plus sur les traditions religieuses qui portent l'homme. Dans un monde matérialisé, dans un monde laïcisé, la seule chose sur laquelle on insiste, c'est l'homme. Et on doit redécouvrir dans l'homme quelque chose qui dépasse ce point de vue purement matériel, ce point de vue purement économique, dans lequel on est plongé. Les gens raisonnent d'une manière matérialiste. Et ça gagne même la théologie. Ça gagne tout. Ça prend tout. Alors on doit essayer de se replonger, de se reposer le problème, vous voyez. Est-ce que le problème de la métaphysique, dans un monde comme le nôtre, le monde occidental, le problème de la métaphysique a-t-il encore un sens? Vous devez tout le temps vous poser la question. Parce que si vous ne vous posez pas la question, vous répétez. Donc vous faites de l'archéologie. Et dès que vous serez plongé dans le monde d'aujourd'hui, vous direz, ah oui, au fond, toutes mes études, c'était de l'archéologie. Je vois très bien, c'était très beau, c'était un musée. Oui, oui, bon, il y a un musée ici, encore de très belles statues, très intéressant, mais c'est un musée. Dès que j'ouvre les portes, c'est plus ça du tout. Alors à ce moment-là, on risque la tentation, se dire, bon, très bien, tout ça a été très bien peut-être pour un monastère, une forteresse, une vieille forteresse qui tient encore, qui ouvre ses portes de temps en temps pour avoir du pain et du poisson et de la viande, mais en dehors de là, non. Vous voyez, c'est une tentation permanente, ça. Il ne faut pas l'oublier. Donc, si on ne se pose pas le problème, on doit tout le temps se le poser. Est-ce que dans notre monde d'aujourd'hui, nous pouvons encore faire de la métaphysique? Et on doit se poser, j'allais presque le dire, mais constamment. Moi, je ne peux pas vous le poser à chaque cours. Mais au fond, c'est la question permanente. Est-ce que, quelle est la signification dans notre monde d'aujourd'hui? Devant un économiste, qu'est-ce que ça veut dire faire de la métaphysique? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on est complètement à côté. Devant un banquier, qu'est-ce que ça veut dire? On fait de la métaphysique. Ah! C'est que cette bête invraisemblable, dans l'arche de Noé, on a maintenu cet animal particulier qui était la métaphysique. C'est l'arche de Noé. En dehors du déluge. Alors, vous voyez, c'est pour ça qu'on incline tout de suite le problème vers le problème de l'homme. Beaucoup plus que les anciens. Les anciens, étant portés par les traditions religieuses, regardaient beaucoup plus l'univers. Et c'est à travers l'univers qu'ils cherchaient ce que c'est que l'être, ce que c'est que le devenir. Regardez Parménide, regardez Héraclite, c'est l'univers. Regardez même Platon, c'est l'univers. Évidemment, lui, c'est le ciel. Regardez Aristote. Ah, Aristote revient beaucoup plus à l'homme. Déjà Aristote. Aristote est beaucoup plus indépendant des traditions religieuses que Platon. Aristote ne dira jamais que l'ousia, c'est la déesse qui demeure. Platon dit ça dans le Cratyle. Et c'est pour ça que Aristote a un certain prestige dans la pensée scientifique, parce que Aristote ne fait pas d'allusion aux attitudes religieuses. Tant mieux pour nous, en comprenant bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le regard d'Aristote va aller plus loin dans la recherche de l'homme considéré pour lui-même. Et le néoplatonisme, Plotin, revient aux traditions religieuses. Je crois que le néoplatonisme et Platon ne peuvent être vécus qu'à l'intérieur de traditions religieuses. Je crois que l'intérêt pour nous d'un Aristote, c'est que tout est basé sur l'expérience. Or, il y a une expérience religieuse et il y a une expérience humaine. Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous lui serrez la main et que vous le regardez et qu'il vous regarde, ce n'est pas une expérience religieuse. Parce que vous ne rencontrez pas un Dieu. Vous rencontrez un homme. Et vous essayez de comprendre qu'est-ce que ça représente, cette rencontre. Et vous essayez de comprendre, cet homme est dans un milieu, notre univers. Il y a du soleil ou il y a du brouillard. Ça importe peu. Ça ne change rien du tout à l'homme. Vous voyez bien que l'homme a besoin d'un certain climat, il a besoin de certaines traditions, mais lui, tel qu'il est, est-ce qu'il dépend des traditions religieuses? Il en dépend sûrement, il a une capacité en lui de dépasser ces traditions religieuses. Il les dépasse de deux manières. S'il est chrétien par sa foi, la foi est au-delà des traditions religieuses et les dépasse par l'intelligence. Mais tant qu'on n'a pas fait cette découverte, on dépend de l'archéologie. On n'a pas compris que la philosophie était premièrement, je dis bien premièrement, une question de l'intelligence et du cœur, c'est évident. Mais pas premièrement tradition religieuse. Et c'est très très important de comprendre ça. Et je crois que si on ne comprend pas maintenant, on risque alors, vous voyez, de bloquer métaphysique, philosophie réaliste et tradition religieuse. Alors on fera exactement comme des réactions de quantité de jeunes qui appartiennent à des familles chrétiennes et qui ont fait le blocage entre tradition familiale chrétienne et la foi. Et comme à un certain âge, on veut l'indépendance à l'égard des parents, c'est légitime, surtout quand les parents accaparent trop. Alors on veut la même indépendance si on rejette tout par rapport à la foi. Parce qu'on a fait le blocage. Eh bien, je crois qu'il y a quelque chose de très analogue, vous voyez. Pour nous, nous formons une famille. Et ici, c'est la famille des tout-petits, puisque c'est le noviciat, et puis première année de prophète. Donc, c'est les petits. Arimont, un peu plus poussé. Puis après, quand on est dans un prieuré apostolique, alors on a une indépendance plus grande. On risque de dire, ah, tout ce que j'ai appris, oui, c'est très très bien, c'est très beau, mais complètement irréalisable dans le monde d'aujourd'hui. Alors on rejette tout. Et on se met tout simplement à suivre le mouvement actuel sans réfléchir. Ça, je crois que c'est très très important de saisir ça. De le saisir. Vous voyez, pourquoi le Saint-Père nous demande-t-il de faire de la métaphysique, hein? C'est le grand-père. Il tient au vieux meuble. Un style important. Pourquoi demande-t-il ça? Ce qui met en fureur une quantité de gens. Je vous disais certains échos que j'ai encore eus. Hier à Paris, c'est quand même assez extraordinaire, parce qu'on le dit ouvertement aujourd'hui. Ah, il est beaucoup trop proche du pape. C'est un reproche. Beaucoup trop proche du pape. Beaucoup trop dans le sillage, dans ce que le pape demande. Alors tout ça, non. Ceci par rapport à une presse dite catholique. Alors, de temps en temps, ça se dit, ça s'émerge. Alors, il faut qu'on comprenne, dans le point de vue de notre intelligence, quand on a compris du côté de l'intelligence, bah, que quelqu'un qui a une très grande foi, il continuera. Évidemment, ma foi, elle est... Elle implique trois alliances que je n'abandonnerai jamais. Même si je suis seul. Je serai seul à suivre le Saint-Père. Ça me serait égal d'être seul. Je serai obligé de me taire. Ça m'est égal. Je suis. Parce que je sais qu'il faut croire dans l'Eucharistie, qu'il faut recevoir Marie comme alliance et qu'il faut recevoir Pierre. La triple alliance, dans Saint Jean, la triple alliance. Bon, si on a une très grande foi, mais je crois qu'il faut être des croyants intelligents dans le monde d'aujourd'hui. Si on garde le silence dans une vie monastique, on peut être uniquement des croyants. Alors on sera le mot athos. Vous pouvez inventer le mot athos, un nouveau. Pourquoi pas faire de Saint-Jodard le mot athos? Évidemment, c'est un petit peu dans la vallée comparativement au mot athos, mais ça ne fait rien. C'est peut-être le signe des temps. Mais si on est apôtre, si on doit répondre et témoigner de sa foi, il faut donc que l'intelligence puisse être au service de sa foi. Et qu'on puisse montrer que l'intelligence est au service de la foi. Et alors à ce moment-là, il faut comprendre pourquoi le Saint-Père dit il faut de la métaphysique pour la formation des prêtres. Mais ce n'est pas de l'archéologie. Le Saint-Père n'a pas dit soyez tous des archéologues de la primitive Église, et pour quand vous allez au Vatican, vous compreniez le musée du Vatican. Soyez des archéologues de la vieille Grèce pour comprendre la grandeur de ce que c'est que la sculpture grecque. Non. C'est très bien si vous l'êtes, hein. C'est très très bien. C'est un petit galon supplémentaire. Mais ce n'est pas ça qui est la vie de l'intelligence. La vie de l'intelligence, c'est découvrir ce pourquoi l'intelligence est faite. Et l'intelligence est faite pour la découverte de la vérité. Et la vérité, c'est de savoir, comprendre ce qu'est l'homme dans toutes ses dimensions. Puisque l'homme est la réalité la plus parfaite que j'expérimente. Vous ne pouvez pas expérimenter une réalité plus parfaite que l'homme. Si vous pouviez expérimenter une réalité plus parfaite que l'homme, je dirais, regardez cette réalité. Mais vous n'avez pas expérimenté ce que c'est que l'ange. Même si en songe, de temps en temps, l'ange vient vous dire toute son affection. Vous ne vous réveillez pas le matin en disant « Ah, je vais faire une métaphysique angélique !» Remarquez, hein, c'est ce que Descartes a voulu faire. Puisque c'est dans un songe qu'il a découvert sa nouvelle métaphysique. Et il nous a donné une métaphysique angélique. Mais comme Descartes n'est pas un ange, elle est poussive, sa métaphysique. Il y a un bel élan du début, puis ça craque. Parce que nous ne sommes pas des anges. Je ne peux pas faire une métaphysique angélique. Je ne sais pas si les anges font une métaphysique. Demandez à votre ange gardien, quand il vous réveille la nuit, hein, de vous mettre un petit peu sur votre lit ce que c'est que la métaphysique angélique. Hein. Je ne crois pas que les anges font une métaphysique. Je ne crois pas. Ils n'en ont pas besoin. C'est nous qui avons besoin de ça, parce que nous marchons à quatre pattes, alors nous avons besoin d'une métaphysique humaine, pas angélique, humaine, qui respecte parfaitement ce que c'est que l'expérience humaine. La réalité la plus parfaite que vous expérimentez, c'est l'homme. Et donc toute philosophie qui part de l'expérience part de l'homme et revient toujours à l'homme et cherche à découvrir les dimensions profondes de l'homme. Et toute la philosophie est faite pour ça. Découvrir les dimensions profondes de l'homme. Et je crois qu'aujourd'hui, où nous ne sommes plus portés par les traditions religieuses, nous devons mettre l'accent là-dessus. Je vous ai déjà dit, ce petit dialogue que j'avais eu avec des prêtres ouvriers, je le dis parce que ça m'a beaucoup intéressé. Ces prêtres ouvriers, je leur ai dit, vous êtes prêtres ouvriers pour connaître l'ouvrier. Eh bien, vous ne pouvez pas connaître l'ouvrier sans connaître l'homme. Alors, ils me regardaient. Je dis oui. Et moi, je fais de la philosophie pour connaître l'homme. Alors, à ce moment-là, ils disent, ça doit être très intéressant. Je dis oui, c'est très intéressant. C'est bien évident, autrement, j'en ferai pas. C'est comme vous, ça doit être bien intéressant de connaître l'ouvrier. Mais ce n'est pas suffisant de connaître l'ouvrier. Parce que si vous connaissez l'ouvrier, vous devrez connaître le patron. Et connaître l'ouvrier et le patron, comment connaître la relation qui existe entre l'ouvrier et le patron? Si on ne voit pas que l'homme est un... que l'ouvrier est un homme et que le patron est un homme. Et là, il y aura possibilité de rencontre. L'ouvrier rencontre le patron quand il parle un langage humain. Et le patron rencontre l'ouvrier quand il parle un langage humain. Autrement, vous tombez dans la dialectique hegelienne du maître et de l'esclave. Or, cette dialectique hegelienne du maître et de l'esclave, elle commande toute la sociologie d'aujourd'hui. Elle commande toutes les relations d'aujourd'hui. Il faut la dépasser. La dépasser, c'est connaître l'homme. Vous voyez, c'est là où je dis... C'est là où nous comprenons que la philosophie dépasse les traditions religieuses. qu'elle va plus loin. Et donc c'est cette connaissance de l'homme qu'il faut rechercher à travers tout. Bon, on connaît l'homme dans ses diverses dimensions. L'homme travailleur, l'homme ami, l'homme en communauté humaine, l'homme partie de l'univers, l'homme vivant. Et puis il existe. Et donc, si je ne sais pas ce que c'est que l'être, je ne sais pas ce que c'est que l'homme. Et en définitive, l'homme est une personne. Et je ne peux pas connaître la personne si je ne sais pas ce que c'est que l'être. Et vous voyez, au fond, nous faisons de la métaphysique pour connaître ce que c'est que la personne humaine. Alors là, on commence à comprendre que la personne humaine, que l'homme a quelque chose de tout à fait particulier, qui est tout à fait fondamental en lui. Il y a l'autonomie. Alors je ne dirai pas la déesse qui demeure. C'est la même chose. L'autonomie, c'est la déesse qui demeure. Comment se fait-il qu'il y a en moi une certaine autonomie? Pourquoi quand je vois mon semblable, je dis c'est très très bien, je te respecte, respecte-moi. J'ai une certaine autonomie dans l'être. Et je respecte le voisin parce que lui aussi a une autonomie dans l'être. Alors, quelle est cette autonomie? Sur quoi ça repose? Vous voyez, c'est une petite voie très simple pour nous poser le problème de la substance. Il y a en nous quelque chose de radical qui fait que nous sommes quelqu'un. Nous sommes quelqu'un. Aliquid, quelqu'un. Le quelqu'un, il a une autonomie dans l'ordre de l'être. Qu'est-ce que c'est que cette autonomie dans l'ordre de l'être? Comment comprendre cette autonomie dans l'ordre de l'être? Les relations avec les autres, ça c'est facile à comprendre. Et des êtres purement relatifs, j'en rencontre tout le temps. Vous savez bien, avec l'un, ils disent blanc, avec l'autre, ils disent noir. La synthèse, le gris. Vous voyez bien, ça, c'est évident. Il ne faut pas être hégélien à cause de ça, n'est-ce pas? C'est la réponse anti-hégélienne. Mais c'est vrai, c'est, ça se rencontre tout le temps. Des êtres qui n'ont pas d'autonomie sont comme ça. Ils sont tout entiers relatifs. Et sur leur carte d'identité, c'est ça, c'est les relations. Je connais très bien telle personne, c'est mon ami. Je connais très bien cette personne, c'est mon ami. Et toi, qu'est-ce que tu es? Ah, je suis l'ami de mes amis. Et uniquement. Et tu vois pas que dans tes amis, il y a des contradictions. Tu es le grand ami de Mitterrand. Ah oui, 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 oui. Mais tu es aussi le grand ami d'un autre, qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais c'était ce bon père jésuite, pour ne pas le nommer. Je ne dis pas c'est qui, mais c'était un bon père jésuite, qui disait j'ai deux amours. Donc il avait deux relations. Saint Ignace, c'est normal. Et Freud, plus étonnant. Mais textuellement, textuellement, sur sa carte de visite, c'était ça. J'ai deux amis. Il me l'a dit à moi. J'ai deux amis. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous êtes? Et je suis père jésuite. Donc, je suis lié à Saint Ignace. Et je suis lié à Freud. Je dis, est-ce que vous n'avez jamais compris qu'il y avait une petite opposition entre Freud et Saint-Ignace? Et c'est vous qui faites la synthèse, puisqu'il a mis des deux. Vous voyez, c'est très curieux, donc il n'avait jamais compris son autonomie. S'il avait fait un peu de métaphysique, il aurait compris quand même. Être relatif à Saint-Ignace, je n'ai aucune opposition. On peut être un saint en étant l'ami de Saint-Ignace. Heureusement. Poussez jusqu'au bout votre amour de Saint-Ignace, vous serez un saint. Comme pour vous, poussez jusqu'au bout votre amour pour Saint-Jean, vous serez un saint. C'est toujours comme ça. Hein. Poussez jusqu'au bout votre amour pour Saint-Ignace. Je ne dis pas pour Saint-Ignace, parce que ce n'est pas directement pour vous, mais Saint-Ignace à travers Saint-Jean. Les exercices de Saint-Ignace transformés par Saint-Jean. On m'a demandé de faire ça, c'est pour ça que j'ai trouvé ça très beau. Exercice Saint-Ignace transformé par Saint-Jean. La nouvelle manière de regarder l'exercice Saint-Ignace. On peut très bien le faire. Je ne l'ai pas encore fait, mais je très bien. On mettrait ça sur la carte de visite. Nouvelle manière d'exercer les exercices d'Intignace. Dans la lumière, je ne dis pas à la sauce Saint-Jean, mais dans la lumière de Saint-Jean. Dans la lumière de Saint-Jean. Et si on pousse jusqu'au bout l'amitié avec Freud, je ne dis pas qu'on va à la sainteté. Non, sûrement pas. Vous voyez, mais c'est ça qu'on doit saisir. C'est que si on ne saisit pas notre autonomie fondamentale, nous devenons des êtres purement relatifs. Combien il y en a aujourd'hui ? Je prends cet exemple de ce bon père jésuite qui, à un moment donné, je vous affirme, tout le monde courait auprès de lui, parce qu'il faisait cette synthèse Saint-Ignace-Freud. Comme Garodi, qui faisait la synthèse Marx, et puis notre cher père jésuite pour l'évolution. Alors, il faisait la synthèse des deux. Et sur son pupitre, il y avait la photographie des deux. Mais c'est constant, ça, aujourd'hui. Parce que les gens ne savent plus ce que c'est que leur autonomie. Fondamentale. Et c'est pour ça qu'il y a une recherche, vous voyez, de l'autonomie. On pourrait intituler comme ça, si on faisait une petite métaphysique, pour notre monde d'aujourd'hui. C'est peut-être ce qu'il faudrait faire, du reste. La recherche de notre autonomie fondamentale de l'homme. La déesse qui demeure, l'autonomie fondamentale dans le cœur de l'homme, d'où ça vient notre autonomie fondamentale, elle est dans l'être. Alors, vous cherchez, votre autonomie vient-elle de vos qualités ? Non. Vient-elle de votre quantité ? Non. Vient-elle de vos relations ? Non. Vient-elle de vos actions ? Non. Vient-elle de votre situation particulière dans le monde ? Non. Vient-elle du temps ? Vous voyez, vous prenez les prédicaments. Et vous voyez que votre autonomie, ah mais elle est au-dessus de tout ça. Si je suis vraiment l'ami de quelqu'un, il faut que je sois moi-même. C'est terriblement décevant pour un ami de rencontrer quelqu'un qui n'a aucune autonomie. Il faut bien distinguer les serviettes et les chiffons. Et quand vous arrivez à discerner dans quelqu'un que vous avez considéré comme un ami, et vous voyez qu'il n'a aucune autonomie. Oh, j'ai cru que tu avais une autonomie. Je pouvais m'appuyer sur toi. Au moment un peu de souffrance, l'ami s'appuie sur son ami. Puis il voit qu'il est purement relatif. Et donc l'autre faiblit aussi. C'est comme dans un ouragan, n'est-ce pas ? Tous les arbres faiblissent du même côté. Ils n'ont pas d'autonomie. Quand vous découvrez dans l'ami qui n'a pas d'autonomie, il n'y a pas de répondant, ça brise l'amitié. C'est curieux. Pour qu'il y ait une amitié, il faut qu'il y ait une autonomie. Et vous demandez à un ami d'être autonome. Vous lui demandez d'être réciproque à vous, mais vous lui demandez qu'il y ait quelque chose de plus radical que ça. Parce que si c'est uniquement quelqu'un qui est relatif à vous, mais il ne peut pas. Voyez, alors vous essayez de comprendre que l'autonomie, elle n'est pas donnée dans les divers prédicaments. L'autonomie, c'est pas simplement celui qui est capable de recevoir toutes les déterminations. C'est plus que ça. C'est d'être source. On est source dans l'autonomie. On n'est pas seulement un sujet qui reçoit des déterminations. On est source. Source d'indépendance. Source capable d'être quelqu'un qui résiste quand il doit résister. Source capable d'être parfaitement soi-même. Voyez, par l'autonomie, vous découvrez l'exigence dans l'ordre de l'être d'un principe. Et peut-être que pour nous, dans notre monde d'aujourd'hui, ce serait la grande manière de montrer l'exigence de cette recherche métaphysique Et cette recherche métaphysique qui aboutit à ce que, traditionnellement, on appelle substance. Mais ce n'est pas le désir de rajeunir la substance, on ne rajeunit pas la substance, elle est éternelle. Donc ça ne se rajeunit pas. Mais c'est le désir de comprendre, par rapport à l'homme, l'exigence de la recherche de ce principe. Ce qui en nous est source d'autonomie. Cherchez ça, posez-vous la question comme ça. Et vous verrez que vous aboutirez nécessairement à dépasser toutes les catégories. Les catégories, elles demeurent. Hein. Parce que dans la fémologie d'aujourd'hui, au fond, on n'a pas dépassé les catégories. Regardez Husserl, il n'a pas dépassé les catégories. Je peux très bien reprendre aujourd'hui les catégories dans une perspective fémologique, le vécu. Le vécu de la qualité. Hein, le vécu de la qualité, c'est extraordinaire. Le vécu de la quantité. Je suis gros, le vous. C'est un vécu, ça. Puis au bout de quelques mois de noviciat, j'ai maigri. Je suis très heureux. Je suis mieux dans ma peau. C'est un vécu. Le vécu de la relation. Le vécu de la passion. Le vécu de l'action. Le vécu d'être dans le temps. Pourquoi je suis né dans ce 20e siècle si difficile à vivre? Si j'étais né au Moyen-Âge. Voyez? Ou bien, pourquoi suis-je né au début du siècle? J'aurais dû naître un peu plus tard. C'est tellement extraordinaire de pouvoir vivre l'an 2000. Ça, c'est une aventure. C'est vrai, ça. Vous voyez, le vécu du temps, le vécu du lieu. Je suis né au Liban, tandis que je suis né autour de Paris, dans la banlieue. Pas drôle du tout. Ah, je suis né dans le Midi. Dans le Midi, ça va encore un peu mieux. Je suis né au Brésil. Hein. Le vécu. Le vécu des différents lieux. Ça, c'est le vécu, c'est les catégories quand même. C'est pas ça qui me donne l'autonomie. C'est pas parce que je suis né au Liban que je suis autonome. Non, pas du tout. C'est pas parce que je suis né dans la banlieue de Paris que je suis nécessairement relatif à la ville des villes qui est Paris. La ville de lumière, je suis relatif à ça. Non. Qu'est-ce qui fait mon autonomie? Vous voyez, la question fondamentale pour essayer de comprendre qu'il y a en moi quelque chose dans l'ordre de l'être au-dessus des prédicaments. Et ce quelque chose, oui, je dis bien, c'est d'être source de toutes les déterminations. C'est d'être source de ça. Il y a quelque chose en moi qui dépasse toutes ces déterminations et qui fait que je suis capable de comprendre la signification de ces déterminations. Il y a une autonomie en moi fondamentale. Ça, c'est la découverte de l'ousia, de la substance. Vous voyez, je fais appel au sens profond que j'ai de ce que je suis dans, non pas ceci est, mais je suis. C'est un corollaire. J'existe. Pour mon voisin, j'existe. Pour moi, je suis. Pas tout à fait la même chose. Mon voisin, il me regarde de l'extérieur. Il dit, tu existes. C'est très embêtant que tu existes, parce que tu peux être mon rival. Si tu n'es pas là, je pourrais me développer plus. Toujours un petit peu, on est toujours un petit peu rival d'un autre, c'est toujours. Quand vous dites « je suis », qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire l'autonomie dans l'ordre de l'être. Pour pouvoir dire « je suis », il faut aller jusqu'à la substance. Le « je suis » vous conduit à la substance. Vous conduit à quelque chose de radical. Quelque chose de premier dans l'ordre de l'être. Je suis. Le je lié à l'être. Le je lié à l'être, le moi lié à l'être, me fait découvrir mon autonomie dans l'ordre de l'être. Et quand je découvre cette autonomie dans l'ordre de l'être, je dis oui, c'est vrai, il y a une source en moi, une source radicale d'être. Cette source, on l'a appelée substance. Je vois pas d'autre nom du reste. Hein. Inventer, si vous voulez, un autre nom, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui est important, c'est de comprendre. Vous ne pouvez pas dire c'est le jeu. Non, 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 non. Parce que le jeu, mais c'est tout ce que je suis. Quand je parle, c'est moi. Est-ce que c'est ma substance qui parle? Non, non, non. L'autonomie dans l'ordre de l'être, ça implique une solitude. À la découverte qu'il y a en moi quelque chose de plus radical que la relation, qui est ma solitude. C'est vrai, ça. Et au fond, je ne peux acquérir, je ne peux vivre de l'autonomie, donc acquérir cette autonomie que dans la mesure où j'ai compris qu'il y avait en moi une source d'autonomie, de solitude. Si je ne suis que relatif, et uniquement relatif, mon ami va très vite se lasser de moi, parce que je deviendrai une sangsue. Il n'y a rien de plus terrible que d'être sensu. C'est-à-dire totalement relatif à l'autre. Et puis puiser dans l'autre tout ce que je peux. Alors au bout d'un certain temps, on renvoie la sensu. Et vis un peu dans ton autonomie. Allez, fais un mois de solitude et puis on verra. C'est vrai ça. C'est très curieux hein, de saisir par le je suis la racine profonde. Dans l'ordre de l'être, source d'autonomie. Cette source d'autonomie, elle est très individuelle, elle est unique, c'est moi. Et c'est le moi profond, c'est le moi au-delà de ce que je peux expérimenter. C'est le moi source, premier dans l'ordre de l'être. Il y a quelque chose de premier dans moi, dans l'ordre de l'être. Alors, je suis radicalement ce qui est. Et c'est vrai, je suis radicalement ce qui est. Pour moi, il y a quelque chose de premier. Et ce quelque chose de premier dans l'ordre de l'être, on l'a appelé substance. On l'a appelé ousia. Et je le découvre comme quelque chose d'au-delà de mon expérience. Je n'expérimente pas. J'en vois les effets. Et je sais que ça existe. Et que c'est même à partir de là que je dois comprendre l'existence de tout le reste. Il y a quelque chose de radical. Et pour bien le saisir, je sais très bien, mon intelligence seule le saisit. C'est pas mon affectivité. J'aimerais beaucoup que ce soit mon affectivité. Mon affectivité saisit quelque chose de moins radical, mon âme. Ah, c'est curieux. L'intelligence saisit la substance et mon affectivité saisit mon âme. Et c'est la même réalité, mais sous deux aspects différents. Mon âme, c'est vrai, affectivement je saisis mon âme. J'aime mon intériorité, du moins si j'ai découvert mon autonomie. Parce qu'il y a des gens qui haïssent leur intériorité. Ça existe dans le monde de l'oubli. Je ne peux jamais rester seul. Dès que je suis seul, oh alors j'ai la panique. Il y a des gens qui ont la panique de la solitude. Il y a des gens qui ont la panique de la multitude, et il y a des gens qui ont la panique de la solitude. Ça existe. Ils ne s'aiment pas assez. Ils aiment plus les autres qu'eux-mêmes. Alors ils ont la panique de la solitude. Ils ont la panique de l'intériorité. C'est intéressant de voir ça. Par l'intériorité, je découvre l'âme. Par l'autonomie, je découvre la substance. D'un côté, je découvre ce côté affectif qui est en moi. Je m'aime quand même. Il y a quelque chose qui fait que je m'aime. Même si je dis de temps en temps que je me haïs, ça fait bien. Et en réalité, je m'aime. C'est évident que je m'aime. Et plus vous dites que vous vous haïssez, plus vous vous aimez, en fond. Et vous avez la pudeur, qui n'est pas toujours métaphysique, de dire que vous vous haïssez. En réalité, vous vous aimez. Mais ça ne va pas de dire qu'on s'aime. on aime son âme, on aime l'intériorité, on aime cette source de toutes mes activités. Puis, cet amour ne dépasse pas le principe de ma vie, qui est mon âme. Et je dépasse le point de vue de la vie en voyant que pour moi, vivre, c'est exister. Il y a quelque chose de plus fondamental dans l'exister que dans la vie. Passer du vivere à l'exister. Passer du vivere à l'essai. Comment fait ce passage? C'est que ma vie, j'allais dire, elle est en péril. Elle est toujours en péril, ma vie. Un jour, je peux mourir. Et la mort, c'est au niveau de ma vie. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? La panique, hein? Il y aura une fêlure fondamentale. Tremblement de terre apocalyptique pour moi. La mort.